Martin Servaz est commandant de police et il est ce qu'on appelle un personnage fétiche. C'est en écrivant son premier thriller, Glacé, en 2011, que Bernard Minier lui a donné vie. Un début de roman, longtemps resté au fond d'un tiroir, que cet ancien contrôleur des douanes a mis 2 ans et demi à terminer et qui a finalement été primé au Festival du Polar de Cognac. Depuis, les enquêtes de Martin Servaz ont fait de Bernard Minier l'un des auteurs les plus lus en France. Et Lucia Guerrero, la nouvelle héroïne espagnole de son dernier roman éponyme, est bien partie pour devenir un autre personnage emblématique de ses romans. Avec une écriture rythmée et haletante, des héros attachants et une attention donnée au paysage, les enquêtes de Bernard Minier ont été traduites dans plus d'une vingtaine de langues et séduisent jusqu'aux producteurs de séries télé. Un éclectisme que l'auteur n'a pas fini de revendiquer dans ses lectures et ses projets. On le retrouve pour en parler dans la saison 2 du Qu'est-ce qu'il lit du Monde des Livres. Bonjour Bernard Minier.
Bonjour.
Merci de participer à ce podcast. Nous sommes au Salon du Livre du Mans, faites lire. Et nous allons parler ensemble de votre rapport à la lecture et à la littérature. C'est parti pour la bibliographie de votre vie. Et on va commencer par le premier souvenir de lecture.
Alors, le premier souvenir de lecture, c'est Robinson Crusoe. Mais c'est pas moi qui lisais, en fait. C'était une maîtresse remplaçante en fin d'année scolaire. Un mois de juin, il faisait très très chaud. Le programme était terminé, on était tous un peu assoupis. Et cette maîtresse s'est mise à lire ce texte merveilleux avec une voix extraordinaire. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai quand il faut toujours se méfier de la mémoire des auteurs. Et voilà. Et ça a été une sorte d'épiphanie. Je crois que c'est à ce moment-là, mais là aussi peut-être que je me le raconte. Je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, raconter des histoires.
Et vous aviez quel âge?
C'était CE2 ou CM1, voilà, dans ces eaux-là, quoi. C'est le souvenir que j'en ai.
Vous étiez un enfant qui aimait raconter des histoires?
Ça m'est venu à partir de là. Je me suis dit, c'est formidable ce qu'elle fait. Elle a capté l'attention de tout le monde. On est tous là, émerveillés à écouter cette histoire. Et j'avais envie d'être à sa place, finalement.
Des histoires d'aventure?
Oui, au début, ça a été des histoires d'aventure. Mon premier roman sans image, c'est Bob Moran. Henri Verne est mort l'an dernier à 102 ans. Il a écrit plus de 200 titres. Et Bob Moran, c'était formidable. On voyageait dans le monde entier. On voyageait aussi dans le temps, puisqu'il y avait des machines à remonter le temps, des choses comme ça. Des titres comme La couronne de Golconde, L'ombre jaune, La vallée des brontosaures. Donc, les premiers, oui, c'est de l'aventure.
Qu'est-ce que vous aimez dans le livre d'aventure?
L'évasion, déjà, le fait de voyager. Henri Verne était un grand vagabond planétaire, hein, un peu à la manière anglaise, même s'il était belge. Et il nous faisait découvrir tous ces territoires et évidemment, on les fantasmait. Et quand on a grandi dans un petit village de 2000 habitants au pied des Pyrénées, à une époque où il n'y avait ni Internet, ni réseaux sociaux et 2 chaînes de télévision, l'évasion, c'est déjà quelque chose.
Donc, c'est un personnage littéraire dans lequel vous vous projetiez, ou est-ce qu'il y en a d'autres?
En fait, mes premières histoires, ça paraît incroyable, mais les premières histoires que j'ai commencé à écrire, c'était des Bob Moran. Je prenais les personnages de Bob Moran et Bill Ballantyne, son équipier, et j'imaginais mes propres histoires que je passais à mes copains. Je crois qu'il y en a qui ont encore dans leur tiroir des vieilles histoires écrites à la main, au stylo. Voilà.
Vous aimeriez les retrouver? Vous en souvenez?
J'aimerais assez, ouais. Moi, je suis pas sûr que je serais très fier de ce que je lirais, mais en même temps, c'est quand même un beau souvenir.
Et vous les emmenez où, ces personnages?
Alors, pareil, je les amenais dans un endroit que je connaissais pas du tout. Je les amenais dans le monde entier. Je me rappelle plus exactement ce que j'ai écrit à l'époque, hein. Mais en réalité, aujourd'hui, je fais tout le contraire. C'est-à-dire qu'avant d'écrire sur un pays, je me rends sur place, j'enquête, je me documente. C'est tout le contraire.
Et donc, c'est ce livre dont vous auriez aimé être le héros?
Non, je sais pas. Après, Bob Moran, c'est vrai que c'était un peu le James Bond de l'époque. Hein. C'est-à-dire qu'il était parfait, il savait tout, il était polytechnicien, c'était un homme d'action, il savait se battre. C'était un justicier, un redresseur de tort. Enfin, voilà, c'était le grand héros blanc en solde.
Sans aucune faille, finalement, dans la perfection du personnage.
Complètement. Et c'est ça la différence un peu avec ce que moi j'essaie de faire et que je fais. C'est que, au contraire, mes personnages ont des failles, ils ont des faiblesses. Et c'est peut-être pour ça aussi que mes lectrices et mes lecteurs s'attachent à ces personnages-là, en particulier à Martin Servaz, mon personnage fétiche. Parce qu'au fond, quelque part, ils se reconnaissent en lui.
Avec quel auteur, autrice, vous aimeriez passer une soirée?
Alors, une soirée. J'aimerais bien avec Anthony Burgess. Anthony Burgess, c'est un immense écrivain britannique un peu oublié aujourd'hui, même très oublié. C'est l'auteur d'Orange Mécanique, du Royaume des Mécréants, des Puissants des Ténèbres, pour moi, un des plus grands romans de la deuxième moitié du XXe siècle. Et c'était quelqu'un d'une érudition incroyable. C'était lui aussi un grand vagabond planétaire. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui avait un humour assez vinaigré, quand même, assez caustique. Il avait aussi un petit sentiment anti-français, comme beaucoup d'anglais de sa génération. Mais je trouve que ça serait intéressant.
L'humour dans l'écriture, c'est ce qui est le plus difficile?
Ouais, c'est très difficile l'humour. Et moi, quand je trouve un roman qui me fait rire, c'est quelque chose d'assez rare. Après, j'ai un sens de l'humour un peu spécial peut-être. Hein, mais
définissez.
Je pense, l'humour new-yorkais, par exemple, l'humour juif new-yorkais, ça me fait beaucoup rire. Philip Roth, Complexe de Portnoy, Johnny Dick, et puis cet extraordinaire roman de Jonathan Safran Foer, qui est une espèce de tour de force littéraire. Il a écrit ça, il avait 21 ans. Il raconte, il imagine qu'il se rend en Ukraine, justement, au début des années 2000, retrouver ses racines. Et il va dans un shtetl. Et ce qui est très, très drôle avec ce livre, c'est qu'il y a un autre narrateur qui est son traducteur ukrainien, dont l'anglais est très approximatif. Donc, du coup, c'est une espèce de poésie complètement décalée, involontaire. Alors, volontaire, parce que l'auteur, évidemment, a tout calculé, mais involontaire de la part de ce narrateur. Et c'est d'une drôlerie par moment. Et j'ai envie, d'ailleurs, de vous en lire un passage pour montrer. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça drôle. J'espère que ça fera rire quelques personnes. Voilà. C'est le tout premier passage du livre. Et ça commence par ce titre-là. Ouverture au commencement d'un très rétif voyage. Légalement, je m'appelle Alexandre Pershoff. Mais mes nombreux amis me surnomment tous Alex, version plus flasque à articuler de mon nom légal. Ma mère me surnomme Alexis, arrête de me morfondre. Parce que je suis toujours à la morfondre. Si vous voulez savoir pourquoi je suis toujours à la morfondre, c'est parce que je suis toujours ailleurs avec des amis, à disséminer du temps de numéraire et à accomplir tant de choses qui peuvent morfondre une mère. Moi, j'adore ce genre de choses. C'est pas les mots exacts et c'est encore plus poétique, encore plus évocateur que s'il avait choisi le bon vocabulaire.
Je rebondis sur un mot, morfondre. Est-ce qu'il y a des livres qui vous morfondent?
Ouais, il y en a, ça arrive quand même de temps en temps. Dans le genre qui est le mien, quand je sens que l'auteur a pas tout à fait le boulot, quoi. C'est-à-dire qu'il sait pas exactement.
Par paresse?
Il sait pas exactement de quoi il parle, ou il s'est pas rendu dans le pays qu'il décrit. Ça arrive, hein, de temps en temps. Et j'en parle souvent avec des policiers qui me parlent de ces romans policiers où, en fait, l'enquêteur fait un peu n'importe quoi.
Procédure, vous voulez dire.
Oui, c'est ça. Mmh. Et ça me dérange assez, oui.
Mmh. C'est important pour vous, le réalisme, dans ce que vous écrivez?
Complètement. Moi, je dis toujours que j'écris un genre de fiction réaliste. Et les deux termes sont aussi importants l'un que l'autre. Fiction, parce qu'évidemment, il faut de l'imagination. Il y a plein de choses extraordinaires, comme les scènes de crime sont quand même assez extravagantes, assez tordues. Et à côté de ça, réaliste, on parle... ça se passe ici, maintenant. On parle de la société dans laquelle on vit. Des dangers qui la menacent, des directions qu'elle prend, et on doit savoir de quoi on parle.
Alors, il y a des très belles descriptions de paysages, notamment des Pyrénées, hein, essentiellement d'où vous venez. Est-ce que dans les livres que vous avez lus, il y a une description de paysages que vous retenez particulièrement?
Alors, il y a dans un roman d'un extraordinaire auteur de fantastique belge qui s'appelle Jean Rey, qui lui aussi est peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais qui a beaucoup marqué les gens de ma génération, qui est un peu le Lovecraft européen. En fait, j'ai appris la peur, l'usage de la peur dans le roman à travers deux auteurs qui sont Lovecraft et Jean Rey. Et Jean Rey, dans son chef-d'œuvre qui s'appelle Malpertuis, imagine une demeure cachée dans ce qu'on appelle une cité hanséatique, une cité qui peut être Gand, Anvers, Bruges, noyée de brume et de crachins. Et dans cette maison vivent les anciens dieux de l'Antiquité, qui ont pris forme humaine, mais qui, comme ils ont moins de fidèles, sont moins puissants qu'ils ne l'étaient, parce qu'en fait, la puissance d'un dieu, et on le vérifie tous les jours, la puissance d'un dieu dépend du nombre de fidèles aussi, du nombre de gens qui croient en lui. Et donc, eux ont perdu un peu de leur puissance, mais restent néanmoins redoutables. Et il y a cette description, entre autres, de cette maison, de cette demeure Malpertuis qui est extraordinaire.
Vous avez encore peur en lisant aujourd'hui, puisque vous connaissez justement tous les codes, tous les mécanismes de...
En fait, non, parce que je suis en train de... Mon prochain roman, ça va se passer dans le milieu du cinéma d'horreur, avec un réalisateur de films d'horreur au milieu. Il y a un tournage où il s'est passé des choses assez... Et ça fait quand même 3 mois que je regarde des films d'horreur tous les soirs, vers minuit. Je suis un peu anesthésié, quoi. Enfin, de temps en temps, il y a des choses un peu flippantes.
Aseptique.
Ouais, c'est ça. Mais non, mais anesthésie, c'est-à-dire que j'ai le nerf de la sensibilité qui réagit de moins en moins, finalement. De temps en temps, je détourne le regard, mais pas trop.
On vous écoute.
Elle est là, avec ses énormes loges en balcon, ses perrons flanqués de massives rampes de pierre, ses tourelles crucifères, ses fenêtres géminées à croisillons, ses sculptures grimaçantes de guivre et de tarasque, ses portes cloutées. Elle suit la morgue des grands qui l'habitent et la terreur de ceux qui la frôlent. Sa façade est un masque grave, où l'on cherche en vain quelque sérénité. C'est un visage tordu de fièvre, d'angoisse et de colère, qui ne parvient pas à cacher ce qu'il y a d'abominable derrière lui. Les hommes qui s'endorment dans ces immenses chambres s'offrent au cauchemar. Ceux qui y passent leurs jours doivent s'habituer à la compagnie d'ombres atroces. Ainsi doit penser le passant qui s'arrête un instant dans son ombre et qui s'enfuit aussitôt vers le bout de la rue où il y a quelques arbres, une fontaine murmurante, un pigeonnier de pierre blanche et une chapelle de la Vierge des Sept Douleurs. Là, voici que je me détourne tout à coup de mon projet. Voilà, moi, c'est le genre de description, ça, où on est tout de suite immergé dans une atmosphère, dans un décor. Et c'est vrai que j'aime assez les descriptions dans mes romans. J'essaie de me brider, de me restreindre, parce que mes lecteurs n'ont pas forcément envie de lire Balzac, hein, on est bien d'accord. Donc, mais néanmoins, c'est toujours par le choix de quelques détails significatifs, et après, on laisse à l'imagination du lecteur le travail de reconstruction. Et au fond, je le dis souvent, la lecture, c'est finalement l'activité la plus participative qui soit, parce que quand on regarde un film ou une série, on reçoit des images, on reçoit des sons, mais on n'interagit pas. Quand on lit, on est obligé de combler tous les petits blancs laissés par l'auteur, et finalement, le lecteur coécrit le livre avec l'auteur. Et je trouve que dans les descriptions en particulier, ça existe.
Et vous, en tant que lecteur, est-ce que vous avez des livres dont vous avez imaginé des fins alternatives ?
Oui, ça m'est arrivé, comme j'ai dit, avec les Bob Mohan, ça m'est, quand je lis Lovecraft, quand je lisais, j'ai beaucoup lu de science-fiction aussi. Certains livres de science-fiction, c'est vraiment un univers entier. Dernièrement, je viens d'écrire la préface d'Hyperion de Dan Simmons pour une réédition aux éditions Robert Laffont qui va paraître bientôt. Et Hyperion, c'est un univers complet. Et dans cette complétude, on a envie d'ajouter des choses.
Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter ?
J'ai envie de poursuivre un peu l'histoire. J'ai envie de reprendre ces personnages et cette incroyable figure du mal qu'est le Gritch, le seigneur aux épines, et de prolonger le destin de ces pèlerins qui vont à sa rencontre. Parce qu'en fait, Hyperion, c'est basé beaucoup sur la structure narrative, c'est basé beaucoup sur le Décaméron ou les contes de Canterbury, où on a de même manière des pèlerins qui au fil du chemin, racontent leur histoire. On a envie comme c'est des récits indépendants les uns des autres, même s'il y a un fil rouge entre eux, on a envie de rajouter quelques récits de plus.
On retrouve quoi, vous, dans votre propre chemin de pèlerinage sur des livres que vous aimeriez relire ?
C'est difficile, il y a plein de livres que j'aimerais le relire, mais j'ai pas le temps. Et en même temps, j'ai pas le temps non plus de lire tous les livres qui paraissent, parce qu'il en paraît tellement. Je suis très éclectique, je lis pas tellement de romans policiers, je lis mes confrères un petit peu, ou bien beaucoup, mais je lis plein d'autres choses. J'ai tout un tas de Pléiades que j'ai pas le temps de lire, hein, parce que c'est quand même plus de 1000 pages à chaque fois. J'aimerais bien me replonger dedans. Celle qui concerne Tanizaki, par exemple, qui j'aime beaucoup la littérature japonaise. J'aimerais bien relire Kawabata, j'aimerais bien relire Thomas Bernhard, qui était un lecteur. Je suis tombé dans Thomas Bernhard à 20 ans, comme on tombait en religion. J'ai tout lu à l'époque et j'ai plus rien lu depuis. C'est des choses que j'aimerais retrouver, ces émotions-là.
Et vous parliez de littérature étrangère. Est-ce qu'il y a un livre que vous auriez aimé lire dans sa version originale ?
Thomas Bernhard, justement. Parce que Thomas Bernhard, en fait, c'est sans doute un de ceux qui, avec Beckett, ont été le plus loin dans leur tentative d'explorer les limites du langage littéraire. Et évidemment, on ne peut que se demander, dans les traductions françaises, si remarquables soient-elles, et elles le sont, dans quelle mesure, jusqu'où ces traductions ont vraiment reproduit ce qu'on appelle la logique concaténative de la langue allemande, c'est-à-dire ces agrégats de mots qui sont forcément partis du langage de Bernhard. Donc, quand je lis Thomas Bernhard en français, je sais que je lis Thomas Bernhard, mais je lis aussi autre chose. Et c'est quand même une grande frustration.
Là, devant vous, il y a un livre récent dont vous avez commencé la lecture. Vous pouvez nous en parler ?
Alors, je vais commencer la lecture. Je l'avais emporté pour commencer dans le train, mais je ne l'ai pas encore lu. C'est Anthony Dehors, c'est La cité des nuages et des oiseaux, chez Albin Michel. C'est Anthony Dehors, il a eu le prix Pulitzer en 2017. Et là, c'est son dernier roman qui vient de paraître. Et c'est à la fois un roman de science-fiction, un roman historique et un roman métaphysique, tout ça mêlé, on passe du passé au présent et au futur. Et pour ce que j'en ai parcouru pour l'instant, ça me rappelle beaucoup le merveilleux Cloud Atlas de David Mitchell. Et c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs s'il y a le mot nuage dans les deux titres.
Un roman métaphysique, c'est un roman qui parle de l'existence pour vous ?
Oui, c'est un roman qui parle de thèmes philosophiques. C'est toute une partie de la littérature allemande du XXe siècle est quand même très métaphysique. Quand on lit Thomas Mann, quand on lit Thomas Bernhard, quand on lit Günter Grass, quand on lit Hermann Broch, quand on lit tous ces romanciers roboratifs, hein, ça tient au corps. Hein, c'est de la littérature. Voilà, Docteur Faustus ou La Montagne Magique, il faut quand même se les taper. Et moi, j'adore ça. J'adore quand un roman m'amène loin de, un peu en dehors de la fiction, m'amène vers d'autres rivages, pas forcément attendus.
Et c'est un livre, ça, typiquement, qui peut vous réconcilier avec la vie, l'existence ?
Ah, mais de toute façon, les bons livres, en général, me réconcilient avec l'existence. La lecture me réconcilie avec l'existence, ça, c'est certain.
Pourquoi ?
Parce que, est-ce qu'il y a quelque chose de plus gratifiant, de plus nourrissant, de plus... qui permet autant l'évasion que la lecture ? Je suis pas certain.
Et ça répond à quelles questions pour vous ?
Ben là, en fait, le roman ne répond pas aux questions. Le roman pose les questions. Le romancier, c'est Milan Kundera qui disait ça, le romancier est là pour interroger le monde, pour poser des questions, mais on laisse les réponses à d'autres. On laisse les réponses aux politiques, on laisse les réponses aux philosophes, aux scientifiques. Nous, on se contente de poser les questions.
La sagesse du roman, c'est d'avoir des questions à poser.
C'est exactement ça.
Vous avez un livre à nous recommander pour aimer lire, quelle que soit la génération, l'âge ?
Ah ouais, alors c'est un livre que j'ai beaucoup offert et ça s'appelle « Les 1001 livres qu'il faut avoir lus dans sa vie », c'est chez Flammarion. Et c'est vraiment une extraordinaire source de lecture. Alors
la liste des listes, en fait.
C'est ça, oui. En fait, il y a une page ou deux pages par livre avec une iconographie magnifique. On a des couvertures de livres très anciennes, on a des photos d'écrivains, et c'est très très bien fait. Alors c'est beaucoup axé sur la littérature américaine et britannique quand même. Et aussi, le XXe siècle prend énormément de place par rapport au siècle précédent. Néanmoins, c'est quand même une source d'inspiration pour la lecture absolument formidable.
Et est-ce que vous êtes du type à avoir une liste de livres ?
Ah ben oui, j'ai mes livres préférés. Oui, ben deux livres, je sais pas, mais dans mon prochain roman, il y aura 140 films d'horreur à regarder sélectionnés par moi. Donc j'aime bien les listes.
Donc là, c'est ceux que vous êtes en train de voir tous les soirs à
minuit.
C'est
ça, exactement.
Ok, avec un classement, un quelconque classement.
Non, c'est juste par ordre chronologique depuis les années 30 jusqu'à nos jours, quoi.
Il y a un livre que vous avez lu enfant que vous aimeriez relire. Et quelle attente ?
J'aimerais bien relire Les Baumes Moranes. J'en avais une cinquantaine à l'époque, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de le faire un jour. Il y a tellement de livres à lire, donc c'est un peu compliqué. Mais ouais, pourquoi pas ? Après, j'ai peur d'être déçu quand on a lu à 10 ans et qu'on relit ensuite.
Vous avez déjà été déçu d'une non-lecture ?
Oui, c'est arrivé, oui. Mais par exemple, Malpertuis, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à... Je l'ai relu assez récemment. Et non, c'est une langue toujours aussi belle, toujours aussi éclatante. Non, j'ai pas été déçu du tout.
Merci Bernard Minier. Votre dernier livre, Lucia, est sorti aux éditions Itso. Et plus récemment, la bande dessinée Glacée, dérivée de votre premier roman, avec les dessins de Mig et un scénario de Philippe Thirault, publié aux éditions Phileas. Retrouvez tous les épisodes du Qu'est-ce qu'il lit sur lemonde.fr et sur les plateformes de streaming. À bientôt et surtout, bonne lecture.